Alors, c'était la présentation hier du nouveau Conseil des ministres et on a vu quand même, sans surprise, des gens atterrir à des positions qu'on leur destinait. Je pense entre autres au trio économique. C'est un gouvernement, je le disais, paritaire, 50-50, et un gouvernement qui s'est engagé à avoir une approche plus humaine, une approche plus ouverte, chercher des terrains de compromis. Notre invitée ce matin, elle est vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique. Geneviève Guilbeault est avec nous. Madame Guilbeault, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
D'abord, félicitations pour les deux nominations. C'est quand même majeur. Je voudrais vous parler, bien sûr, de la sécurité publique. Vous avez œuvré dans le passé dans un cabinet d'un ministre de la Sécurité publique.
Oui, exactement.
Qu'est-ce que vous faisiez?
J'étais à l'époque attachée de presse adjointe et attachée de presse en titre, en tout cas dépendant, là, comment on regarde ça. Donc, de 2006 à 2008. Avec effectivement un précédent ministre de la Sécurité publique, qui était lui aussi à l'époque vice-premier ministre. Donc, c'est un dénouement un petit peu, je dirais pas ironique, mais donc c'est spécial de me retrouver moi-même au même endroit 12 ans plus tard.
OK. Quand M. Legault vous a proposé la Sécurité publique, comment vous avez reçu ça, puis à quoi vous avez pensé en vous disant quels sont, si je dis oui, là, quels sont les défis qui m'attendent?
Mais d'abord, quand on se fait appeler par le premier ministre dans cette période critique qui précède la formation de son conseil des ministres, on est heureux que le téléphone sonne, c'est bien sûr. Et quand on se fait offrir un poste au sein du conseil des ministres, c'est un honneur, un insigne honneur. Alors, on est sur le moment, je dirais, surpris, émotif. Et quand on m'a proposé plus spécifiquement vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, je vous avoue que j'ai été étonnée. Et très agréablement étonnée, j'ajouterais, parce que c'est ça, c'est une grande marque de confiance, une très grande marque de confiance de la part du premier ministre. Je le dis toujours, c'est déjà un honneur pour moi tous les jours d'être députée de Louis-Hébert. J'en reviens à peine encore, ça fait à peine un an là, que je suis députée de Louis-Hébert. Et donc, d'ajouter ces belles fonctions-là, ça va me permettre de servir les Québécois d'autant mieux. Et le choix de la sécurité publique, bien, évidemment, c'est, comme vous avez dit, un peu mes premières amours. Là, dès la fin de mes études, moi, j'ai commencé à travailler en sécurité publique et je n'ai jamais vraiment quitté le giron de la sécurité publique. Alors, c'est un ministère que je connais relativement bien. Ce sont des dossiers que je connais, que j'aime. C'est un sujet qui m'habite. Okay. Depuis maintenant 12 ans. Donc, pour moi, c'est en quelque sorte naturel. Alors, je suis extrêmement heureuse de prendre les rênes de ce ministère-là.
OK. Bien, faisons le tour de certains dossiers quand même. Le premier qui va vous arriver sur le bureau, c'est celui de l'UPAC. Le commissaire Lafrenière a démissionné. Il quitte au début novembre. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Nommer quelqu'un par intérim ou vraiment y aller avec quelqu'un pour le poste permanent?
Oui, bien, concernant l'UPAC, vous l'avez dit effectivement, M. Lafrenière, qui va quitter le 2 novembre. C'est certain que moi, je vais, là, j'ai été nommée hier, donc à partir d'aujourd'hui, là, on va pas, de lundi surtout, je dirais, on va prendre le temps de se plonger dans les dossiers, de les étudier, de prendre compte de l'ensemble des situations. Sur l'UPAC, très important de rappeler, on a toujours dit, nous, qu'on voulait que le commissaire soit nommé aux 2/3 de l'Assemblée nationale. Et on va tenir cette promesse. Donc, le futur remplaçant de M. Lafrenière ou la remplaçante sera nommée avec l'approbation du 2/3 des membres de l'Assemblée nationale. Ce sera un des premiers dossiers certainement que j'aurai l'occasion d'aborder plus en détail dans un futur proche parce que son remplacement devra se faire. Monsieur quitte le 2 novembre. Donc, il y a déjà des règles qui sont prévues là pour un intérim, mais certainement, oui, que la nomination de son successeur fera partie des premiers dossiers sur lesquels je me pencherai.
OK, mais il y a deux questions qui concernent l'UPAC plus spécifiquement. Il y a eu des rapports sur des problèmes à l'interne, des relations de travail tendues aussi avec le DPCP, des dossiers d'enquête qui n'ont pas l'air d'aboutir, mâchurés. Ça a été soulevé à maintes reprises par la CAQ. Comment vous allez rendre plus fonctionnelles les opérations menées par l'UPAC pour aboutir à des accusations devant le tribunal?
Oui, bien, comme je vous dis, moi, je vais devoir prendre connaissance de toute l'information pour ce que j'en sais. Actuellement, c'est beaucoup ce qui a circulé publiquement, donc ce que vous savez aussi, puisque tout le monde a entendu. Je tiens pour acquis qu'il y a peut-être d'autres informations là plus sensibles, plus privées à l'interne, à laquelle j'aurai accès désormais. Donc, ça va me permettre d'avoir un portrait complet de la situation pour prendre des décisions plus éclairées. Le futur successeur ou la future successeur de M. Lafrenière donnera certainement le ton aussi peut-être pour la gestion de l'UPAC pour la suite. Il faut rappeler aussi qu'il y a un comité de surveillance de l'UPAC qui a été nommé à la dernière session parlementaire Donc ça aussi, là, je vais demander à avoir l'information complète là-dessus. Donc comment ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne bien? Quel est exactement son mandat? De quelle manière travaille-t-il? Est-ce qu'on lui donne des modalités d'action suffisantes? Est-ce qu'on lui donne des outils suffisants pour fonctionner comme il faut? Donc ce sera toute l'information que je vais demander pour avoir vraiment le portrait d'ensemble de qu'est-ce qui se passe avec l'UPAC, comment ça fonctionne, est-ce que ça va bien, qu'est-ce qu'on doit changer, comment on doit le faire, et bien sûr, qui sera le successeur à la tête de l'UPAC.
Ouais. Là, je comprends que vous venez d'arriver, là, mais vous ne pourrez pas toujours répondre comme ça. Là. On va s'attendre à des réponses plus claires et plus précises.
Je pourrais donner des réponses plus précises quand j'aurai eu de l'information plus précise.
Je comprends, mais je vous donne un exemple sur un autre dossier. Votre prédécesseur nous avait promis un projet de loi, et donc une loi sur l'encadrement des chiens dangereux au Québec. C'est mort au feuilleton. Est-ce que pour vous, c'est une priorité de ramener donc un projet de loi pour encadrer la gestion des chiens agressifs?
Ça fera partie des choses que je vais regarder, c'est bien certain. Mais comme je dis, M. Arcan, ça fait moins de 24 heures en ce moment que j'ai été nommée à ce poste-là. Ce serait irresponsable de ma part d'improviser des priorités ou d'improviser des réponses sur des sujets pour lesquels je n'ai pas forcément
toute l'information. Non, mais je ne vous demande pas d'improviser des réponses. Moi, je veux savoir, pour vous, est-ce que d'avoir une loi au Québec sur les chiens dangereux, c'est une priorité? C'est pas une priorité, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous tient pas à cœur?
L'encadrement des chiens dangereux, oui, c'est quelque chose qui est important. Le terme priorité, bon, est-ce qu'on il faut prendre connaissance de l'ensemble du ministère, voir quelles sont les choses qu'on fera en premier. C'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, ce matin, ce serait hasardeux pour moi de me commettre sur quelles sont les choses qui sont prioritaires, effectivement, qui sont les premières mesures.
Non, mais je comprends ça, mais sans que ça soit la première mesure. Parce que dans le fond, on peut dire, moi, je pense que c'est aux villes de régler ça, ou encore, je pense que c'est au gouvernement d'avoir des règles à travers le Québec. C'est juste ça ma question. Je ne vous demande pas si vous allez déposer un projet de loi dans les premiers jours. C'est juste savoir si ça a une importance pour vous.
Ça a une importance pour moi. Je vais regarder la situation où elle en est aujourd'hui. Je vais voir exactement quel est le besoin, quelles sont les demandes à la part des villes. Vous l'avez dit, c'est quand même les villes au final qui doivent composer aussi avec ça. Et si on doit poser des actions, on va le faire, c'est certain. Moi, je veux prendre connaissance de l'ensemble des dossiers de la sécurité publique et y aller avec les choses les plus importantes, les choses qui peuvent améliorer la qualité de vie des gens, travailler avec les villes, travailler avec mes collègues des autres ministères aux besoins, puis faire avancer ce ministère-là.
OK. Je reviens sur une position qui concerne davantage votre nouveau gouvernement que vous spécifiquement. Il y a deux mesures que vous avez même soutenues avant l'élection, que vous avez maintenues après l'élection, d'amener l'âge de consommation du cannabis à 21 ans et d'avoir une interdiction dans les lieux publics. Actuellement, c'est 18 ans et disons que c'est assez variable d'un endroit à l'autre. Est-ce que votre gouvernement va maintenir le cap sur ces deux aspects-là, donc consommation 21 ans et interdiction dans les lieux publics?
Oui, tout à fait. C'est deux mesures sur lesquelles on a toujours été très clair et qu'on va maintenir, âge légal à 21 ans, parce qu'on sait que, notamment, l'Association des psychiatres du Québec faisait valoir les dangers permanents au cerveau associés à la consommation de la substance en trop bas âge, donc 21 ans, et l'interdiction dans tous les lieux publics, oui, effectivement, partout au Québec.
OK. Là, déjà, pointe à l'horizon des contestations devant les tribunaux. Hier, la ministre fédérale de la Justice a dit qu'on s'attend à ce que quelqu'un, si on ramène ça à 21 ans, conteste. D'autres pourraient contester aussi concernant la consommation, donc en lieu public. Mais ça veut dire que peu importe les batailles juridiques qui se profilent à l'horizon, peu importe qu'on vous dise qu'à 21 ans, vous allez alimenter le marché noir parce qu'à 20 ans, 19 ans, ils vont quand même consommer, c'est le cap et vous le maintenez.
Absolument, on le maintient. Et puis depuis hier, j'ai un collègue, moi, qui a été nommé ministre délégué à la Santé. Donc, on a maintenant un collègue officiellement en titre pour piloter ce futur dossier-là. Alors, je vais vous inviter, bien sûr, pour la suite à vous adresser à lui si vous voulez avoir plus d'informations. Mais ces deux mesures-là sont très claires pour nous. Ces deux modifications-là ont toujours été très claires. On a été très clairs là-dessus, notamment en campagne électorale, et les gens nous ont élus avec un fort mandat. Donc, on tient pour acquis qu'on a encore une fois l'assentiment de la population pour aller de l'avant. Okay. Et d'ailleurs, pour respecter tous les engagements qu'on a pris, c'est un peu la marque de commerce qu'on va avoir comme gouvernement. Donc, les mesures sur le cannabis ne feront pas exception.
Merci. Bonne journée. Geneviève Guilbeault, vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique.